avec votre DJ à la sono.
Bonjour, il paraît, mesdames et messieurs, qu'il n'y aura plus de chauve en l'an 2000.
Le 5 juin 1983, Yannick Noah remporte le tournoi de Roland-Garros.
Le petit Grégory Villemain a été inhumé cet après-midi à l'Épanche sur Vologne, une cérémonie.
Commençons ce journal avec la mort de Louis de Funès. L'acteur est mort la nuit dernière à l'Épanche.
Michel Platini en est à son 35e but en équipe de France.
4 novembre, ouverture de l'antenne de Canal+.
Jusqu'où ira Madame Thatcher? Qu'est-ce qui pourra bien arrêter son triomphe insolent?
10 000 personnes intoxiquées à Bhopal, dans le centre de l'Inde.
J'ai voté Mitterrand sans regret, sincèrement.
Et tu danses avec lui.
Pénétré dans cet univers musical.
Attention, c'est à vous, super.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis avec Renaud Lambert. Année 80, retour en arrière.
Flight number 2.
La France franchit la frontière qui sépare la nuit de la lumière. Ainsi s'exprime Jack Lang le 10 mai à la Bastille, sous la pluie où le peuple s'écrie Mitterrand du soleil. 10 mai 1981, François Mitterrand élu 21e président de la République. La bourse chute de 20%. Les yacht people serrent les fesses. C'est l'année de Imagine. Le 21 mai, Mitterrand, la rose et le panthéon. Majorité absolue pour les socialistes, 4 communistes entrent au gouvernement Monroy, vote de la loi sur les nationalisations, la peine de mort est abolie le 19 septembre contre l'avis de 62% des Français, le SMIC passe à 2900 francs, les allocations familiales augmentent de 25%, les allocations logement de 50%, le minimum vieillesse passe à 20%, mais dit à la main qu'en 1982, la mondialisation est à l'économie ce que la pomme est à la gravitation universelle. Puis, en 1983, Laurence Fabius déclare « La dénonciation systématique du profit est arrangée au magasin des accessoires. » Beaucoup des idées et des acteurs apparus dans ces années-là occupent toujours largement la scène. Nous vivons toujours sous la soumission à un ordre économique qui n'a rien d'inéluctable. Pour prendre aujourd'hui toute la mesure de notre marge de manœuvre, il faut revenir sur les années du grand renoncement avec François Cusset, enseignant à l'Institut d'études politiques de Paris et auteur de la décennie Le cauchemar des années 80, avec Serge Halimi, journaliste au Monde diplomatique, auteur du grand bond en arrière, et Frédéric Lordon, économiste et chercheur, auteur de « La vertu sauvera le monde », c'est jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis, années 80, retour en arrière.
Into the heart of me, the love we share. Oh.
me, baby, tame to love. Touch me, baby, tame to love.
Décembre 1981.
Bon, là, il y a 9 ou 10 bateaux. C'est impossible de, pour un boat people, pour un bateau de Vietnamien, de passer. C'est impossible, il va se faire attaquer par ces gens qui sont des pêcheurs, mais qui sont aussi des pirates. Et il y a 10 000 bateaux comme ça entre l'île de Kra et la côte vers Songkhla où nous devons aller. Évidemment, ils se dirigent vers quoi? Vers la démocratie. Ça, c'est la démocratie. Ce sont les pirates, représentants des pays démocratiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? On peut être présent. C'est-à-dire que des bateaux de guerre qui font rien, qui tournent en rond, qui se posent des problèmes métaphysiques en France, soient présents ici. Et en attendant, puisque ça ne se fait pas, il y a des médecins, parce que c'est leur travail, et il y a des journalistes. C'est ça, parce que la démocratie, ça se mérite aussi. Il faut qu'on sache qu'on ne peut pas la défendre en France simplement en mettant sa tête sous le sable. Ça, ça ne durera pas.
Alors tout le monde a reconnu évidemment Bernard Kouchner, qui... Vous en parlez longuement dans votre bouquin, François Cusset, qui est la figure des droits de l'homme. Les années 80, c'est les années des droits de l'homme.
Mmh. Ben l'opération lancée par Kouchner, un bateau pour le Vietnam, donc là effectivement, il en parle en 80, puisqu'elle dure plusieurs années, mais elle est lancée en 79, et elle aussi inaugurale de la décennie et de la nouvelle idéologie qui se met en place. C'est très intéressant, les discours qu'on entend de Kouchner et d'autres autour de cette opération. D'abord, il y a le discours de l'urgence, qui effectivement est réel, il y a une urgence humanitaire absolue, mais qui, entonné par certains, comme André Glucksmann ou Bernard-Henri Lévy à l'époque, signifie l'inutilité totale d'une analyse politique de la situation et le fait qu'il y a urgence médicale. Donc l'idée que l'analyse critique ou politique est invalidée par l'urgence médicale, vous voyez ce que je veux dire, ça va nous durer 20 ou 30 ans, on est encore dedans. Et puis surtout, il y a l'idée que là énonce assez clairement Bernard Kouchner, qu'avec l'élan humanitaire, on est au-delà de la politique, on est au-delà des polarités politiques. L'image la plus emblématique de cette opération, c'est en 79, une conférence de presse à l'Élysée pour lancer l'opération, où on voit Raymond Aron et Jean-Paul Sartre se serrer la main. Ils ne s'étaient pas revus depuis les années 30. Donc les deux ennemis idéologiques absolus sont d'accord, sont ensemble pour sauver les boat people vietnamiens. Donc le discours derrière, c'est « on est au-delà de la politique ». C'est évidemment faux. Enfin, l'un des grands arguments, l'une des grandes idéologies les plus pernicieuses de la décennie, c'est il y a un au-delà de la politique, alors qu'on est encore complètement dedans. J'en veux pour preuve le fait que Médecins sans frontières va donner naissance en 84, beaucoup plus discrètement, à un drôle d'organisme qui s'appelle Liberté sans frontières, et dont le but idéologique, mais vraiment avoué cette fois-ci, est de dire « Liberté sans frontières ne favorisera et n'aidera que les pays qui vont dans le sens du libre-marché, lequel est le seul moyen de développer des économies viables qui feraient qu'un jour l'aide humanitaire ne sera plus nécessaire. » Donc il y a là un lien graduel, mais clair, qui se fait entre l'élan humanitaire soi-disant apolitique et une lecture complètement idéologique de la situation, parce qu'il faut quand même rappeler qu'on est en pleine guerre froide, hein, enfin on est encore assez loin de la chute du communisme. Donc derrière voilà l'élan purement humain, il y a à mon avis une lecture politique à faire de cette affaire.
C'est à chaque enfant qui tombe, qui meurt loin des yeux de l'Occident.
Notre ciel devient plus sombre et notre avenir.
Sur cette terre de sécheresse, ne fleurissent que les tombes. Malgré toutes nos richesses, leur soleil nous fait de l'ombre.
Mais alors, j'ai vu que vous faites partie d'une cercle Fondation Saint-Simon. Bon, mais ça paraît curieux qu'un libéral soit sous le pavillon d'un homme.
Mais duquel?
C'est Saint-Simon le.
Ah ben non, écoutez, cette petite fondation qui allie des industriels, des journalistes et des intellectuels cherchait un nom. Et Emmanuel Leroy Ladurie a dit au fond, on va prendre Saint-Simon, comme ça personne ne saura lequel.
Moi, j'ai été témoin de cette séance.
Vous étiez là.
Où l'on a décidé le nom. Et le roi Ladurie, qui est un esprit piquant, a satisfait tout le monde lorsqu'il a trouvé l'ambiguïté. Et je puis témoigner que, de ce que vient de dire Alain Minc, que Saint-Simon, ce n'est pas le vrai nom. Le vrai nom, c'est l'ambiguïté. Ouais. Et en prenant le nom de Saint-Simon, on a voulu simplement traduire l'ambiguïté fondamentale.
Voilà, on a dit ça en termes un peu plus chics.
Alors ça, c'est le 3 août 1984, et c'est, voilà, on salue la création de la Fondation Saint-Simon, qui, pour ceux qui ne seraient pas nés du tout à cette époque-là, a joué un rôle important.
Ah oui, oui, oui. Je trouve que c'est heureux que l'archive Fondation Saint-Simon succède à celle de Bernard Kouchner, même si en première approximation, ça a l'air de n'avoir aucun rapport. Je pense au contraire que le rapport est profond. Kouchner, comme le disait François Cussès, c'est l'amorce du mouvement de dépolitisation. Mais d'une certaine manière, c'est également un effet de cette nature que va produire la Fondation Saint-Simon et qui est le processus de la grande indifférenciation droite-gauche. La politique n'a plus droit de cité dans cette affaire. Vous comprenez, s'ouvre l'époque des raisonnables. Et c'est cette indifférenciation droite-gauche qui va donner lieu à ce qu'on appellera plus tard, d'un terme que j'ai jamais beaucoup aimé, mais qu'on va retenir par commodité de langage, la pensée unique. Alors la pensée unique, c'est celle qui nous dit que la bonne organisation des marchés, c'est flexibiliser, déréglementer, que la concurrence est la meilleure des choses, que la finance est bénéfique, que l'État est obèse, importun, qu'il a les doigts carrés, qu'il faut surtout pas qu'il se mêle de l'activité économique, etc., etc. Toutes choses qui sont intimement partagées par les experts des deux bords, les deux faux ennemis, la gauche modérée et la droite intelligente, à moins que ce ne soit l'inverse, j'ai jamais su. Eh bien, c'est exactement ça le projet de la Fondation Saint-Simon.
Je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Frédéric Lordon, sur cette distinction ou cette indistinction entre droite et gauche. Lorsqu'on interroge Alain Minc sur justement sa prétention à être de gauche, qui peut paraître étonnante au vu de ce qu'il dit par ailleurs, il explique dans une autre émission d'Apostrophe, je le cite, « J'essaye de faire une distinction entre un libéral de gauche et un libéral de droite. La distinction... »
Le libéral de droite croit que le marché est le meilleur moyen d'obtenir un optimum économique, mais qu'il faut faire en sorte de maintenir un nombre de stabilisateurs pour que la société ne bouge pas trop, même si on atteint l'optimum économique.
Le libéral de gauche, donc moi...
croit que le marché, outre un nombre de vertus économiques, peut être un moyen assez brutal de changer la société... Et que de ce point de vue, il faut le laisser jouer à plein.
C'est une citation qui est très éclairante parce qu'elle indique en quelque sorte que le libéral de gauche, c'est un libéral de droite, la brutalité en plus.
La Fondation Saint-Simon publie des notes et documents à partir de ses séminaires et elle édite des ouvrages de recherche chez Fayard, trois titres parus en 1985, Terrorisme et démocratie, Le phénomène corporatiste, La forteresse enseignante.
Oui. Donc effectivement, cette fondation est très marginale quand elle se crée en 82, et puis elle se saborde, se sacrifie, met fin à ses fonctions en 99, je crois, c'est ça, avec l'idée explicite que la mission est accomplie. Donc elle est absolument marginale en 82, elle n'a plus rien à faire en 99, puisque ses idées sont devenues, effectivement, ce qu'on appelle à l'époque la pensée unique, mais en tout cas la pensée dominante.
Évidemment, il ne faut pas prendre au pied de la lettre la justification alléguée par Pierre Rosanvallon, selon laquelle la fondation aurait achevé son œuvre. Pas du tout. La mort de la Fondation Saint-Simon a précisément à voir avec le retour du peuple, qui s'est opéré quand ? En 1995. Et Pierre Rosanvallon, qui est assez subtil comme analyste de la société française malgré tout, a très bien perçu que les vents là commençaient à tourner un peu. Et qu'il était temps que la Fondation Saint-Simon disparaisse parce qu'elle n'allait pas tarder à se rendre insupportable. Et ça, de ce point de vue, la manœuvre a été extrêmement réussie. Et donc, tout changer pour que rien ne change, la réincarnation comme stratégie de la persévérance dans l'être, après la Fondation Saint-Simon, la République des idées et la nouvelle critique sociale, ripollinée à des couleurs vaguement rose pâle et qui n'a rien ni de nouveau, ni de critique, ni de social, qui est la Fondation Saint-Simon recommencée tout simplement, mais plus présentable.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go?
Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. Should I stay or should I go?
Quel contre-feu contre tout ça, François Cusset?
Quel contre-feu à l'époque?
Oui, est-ce qu'il y a des intellos, il y a des mouvements, les uns ou les autres, des syndicats, des journalistes, des penseurs, que sais-je, des politiques qui s'insurgent, qui contestent, qui protestent, qui débattent? On a l'impression que, ouais, à part Hockenheim qu'on a cité au début de ce travail, après c'est l'autoroute, quoi. Voilà.
Non, mais il y a d'abord des mouvements sociaux, pas toujours unitaires, et en plus liés à des vieux bastions syndicaux en état de désaffection croissante. Enfin, il y a quand même une résistance sociale, syndicale, dans la rue, à tout ça, qui a lieu, qui est complexe à organiser, qui, encore une fois, se fait dans une ambiguïté complète face à la gauche, qui est au pouvoir et qui est censée être l'allié historique de ces syndicats. Donc, il y a une résistance sociale. La résistance intellectuelle, moi, je ne la vois qu'individuelle. C'est-à-dire qu'il y a, enfin, à ma connaissance et dans le travail d'archives que j'ai fait, j'ai pas vu de mouvement d'ensemble, d'école nouvelle, de réponse organisée à des innovations telle que justement la création de la Fondation Saint-Simon.
J'ai le même sentiment, effectivement, celui d'un désarroi total des gens de gauche qui reçoivent un coup de marteau sur la tête, d'autant plus fort qu'ils ont été trahis par leur propre famille et qu'on ne cesse de leur dire « mais restez avec la famille même si elle vous a trahi, parce qu'en face, ce sera pire ». Et ce discours-là sera matraqué en permanence par François Mitterrand et matraqué avec d'autant plus de volupté qu'à partir de 1983-84 émerge le Front National qui noue un certain nombre d'alliances avec la droite, ce qui permettra de soutenir la gauche quoi qu'elle fasse, y compris quand c'est elle qui est en quelque sorte l'architecte des réformes libérales les plus brutales.
C'est même précisément ce que l'anthropologue américain Albert Hirschman appelait la rhétorique réactionnaire, dont l'argument principal est tenter de changer nous ferait obtenir un résultat pire que la situation. On se retrouverait avec une droite encore pire. Donc le changement est devenu impossible. C'est vraiment la définition philosophique de la réaction.
Mais ça fait un basculement quand même très important en très peu de temps.
Ça va très vite, mais effectivement, il faut quand même, pour ne pas rester dans les dates et les bornes chronologiques, se souvenir que tout ça se met en place dans la deuxième moitié de la décennie 70. La gauche de pouvoir et pas mal d'idéologues comme Alain Minc et autres recueillent les fruits d'un changement dans les têtes et dans les agendas qui a lieu avant, qui a lieu.
Alimi.
Oui, je crois que ça va très fort, précisément parce que ça va très vite. Il est presque impossible de tirer en quelque sorte sur ces politiques-là tant elles changent à toute vitesse. Et c'est quelque chose de voulu, puisque en Nouvelle-Zélande, où à la même époque des réformes néolibérales seront mises en œuvre, l'un des architectes de ces réformes expliquera: une fois que le programme de réforme commence à être mis en œuvre, ne vous arrêtez qu'après l'avoir mené à terme. Le feu de vos adversaires est moins précis quand il doit viser une cible qui ne cesse de bouger. Et c'est un peu ce qui se passe pendant ces années 80. On veut s'attaquer à une mesure de la gauche et puis aussitôt une autre est prise. Et donc, en quelque sorte, l'attaque qu'on a décidé de lancer est devenue obsolète.
Oui, ça, je pense que c'est très important. Qu'est-ce qui a fait que la gauche a été en position dominée, je veux dire la gauche intellectuelle ou la gauche idéologique, politique, vraiment, a été dominée pendant toute la période? C'est qu'elle n'avait plus l'initiative. Elle n'avait plus l'initiative doctrinale. Ça n'est plus elle qui faisait l'agenda du débat politique. Alors là, ça s'est vu, je veux dire, mais on est encore dans cette période à la limite. Ça atteint son point culminant, me semble-t-il, un peu après les années 80. C'est pendant l'époque du MEDEF façon Seyer, avec la refondation sociale, qui nous tirait comme au baltrap une nouvelle idée tous les quatre matins. Et les syndicats, les partis de gauche, les économistes de gauche, d'essayer de rattraper les balles à la volée comme ils le pouvaient, et à peine en avaient-ils fini avec une, que la suivante leur arrivait en pleine poire immédiatement. Et ça, je pas seul à penser, évidemment, parce que c'est trivial, mais comment le faire, c'est une autre question. La grande priorité, c'est de retrouver la mainmise sur l'agenda.
Pour cesser d'entendre, ne serait-ce que quelques heures, les bruits de la guerre, pourquoi ne pas participer demain à la fête de la musique? On vous en a déjà parlé. À tout seigneur, tout honneur, c'est l'instigateur de cette fête de la musique, le ministre de la Culture Jacques Lang, qui donne les premières mesures.
Et puis cette grande fête, ce sera aussi l'occasion pour chacun d'entre nous de fêter l'arrivée de l'été, cette belle saison de l'été, de montrer aussi que la France qui veut renaître économiquement, croit en elle-même, a confiance dans ses forces, a confiance dans son avenir. Et je crois que célébrer cette belle saison de l'été avec la musique, c'est un appel à la vie, un appel à la construction et à l'imagination.
Voilà, cette belle saison de l'été, sur cette belle musique printanière, c'est Jack Lang. Un événement, François Cusset, quand même, cette fête de la musique.
Un événement, enfin un événement.
C'est pas un cauchemar, ça, c'est formidable.
Ah, mais c'est fabuleux qu'il y ait effectivement rien de mieux. Alors, les esprits chagrins pourront dire, et on va presque les suivre, qu'il y a l'idée de la fête à date fixe, et là, plus profondément, ce qui se passe avec la politique languienne et avec cette espèce de génie, de lyrisme vitaliste comme ça, la France innovante, l'appel à la vie, etc. Ce qui se passe, c'est une récupération par la gauche républicaine officielle de la notion de fête qui est une notion centrale dans la subversion de la décennie précédente. La fête dans les années 70, c'est quoi? C'est la subversion en direct de l'ordre établi. Qu'est-ce que devient la fête? Elle devient quelque chose qui est organisé sur l'agenda républicain et qui permet, comme le dit très bien Jack Lang, de développer les pratiques culturelles, notion très intéressante, puisqu'on va désormais scruter à la loupe les pratiques culturelles des Français, qui fait quoi, comment va-t-on les organiser, ça crée tout un marché quand même derrière, et puis surtout ça développe l'innovation, la capacité d'innovation grâce à laquelle les Français vont sortir de la crise. Donc vous voyez, la fête d'instrument de subversion devient un instrument, on peut presque dire, de contrôle social. Ouais.
Beaucoup de commentaires après la signature de l'accord UDF-RPR Front National pour une liste unique au second tour des élections municipales à Dreux dimanche prochain. Quelle est la réaction du Front National qui fera donc liste commune avec l'UDF et le RPR à Dreux? Écoutez le président de ce mouvement, Jean-Marie Le Pen.
La victoire du Front National est certaine, sa progression ne le fait pas sortir du néant, comme certains semblent le penser, mais je suis de ceux qui pensent que c'est un chiffre qui peut s'étendre largement à l'ensemble du pays si nous bénéficions de la loyauté et de l'égalité de l'information comme nos concurrents dans les élections.
Enfin, Georges Marchais, le secrétaire général du Parti communiste français, lance un appel ce matin aux électeurs drouais, les électeurs de Dreux, pour qu'ils empêchent que Dreux soit la première ville de France ouvertement dirigée par l'extrême droite.
Voilà, 16 septembre 1983, élection à Dreux. Et ça aussi, c'est un trait de cette décennie, François Cusset.
Oui, c'est une des dates les plus tristement importantes de la décennie, puisque c'est vraiment l'émergence d'un acteur politique nouveau. Le Front National faisait des scores aux élections grotesques jusqu'à cette municipale partielle de Dreux, qui, il faut le rappeler, a été revotée une deuxième fois après l'été à cause de problèmes au second tour au printemps, et donc conduit à cette alliance, elle aussi tristement historique, dénoncée effectivement par quelques personnalités de droite. Alors, ce qui nous rappelle quand même au passage cette chose importante, on a beaucoup dit la gauche de pouvoir a un intérêt évident à l'émergence du Front National, puisque ça va émietter l'électorat de droite, gêner la droite et lui permettre de gagner les élections suivantes. On voit bien avec ce genre de tactique d'alliance et les débats idéologiques que ça crée à droite qu'il n'y a pas que la gauche qui a favorisé la montée du FN. Enfin, ça va de soi. Le Pen, même si ça n'est pas lui qui est candidat, va devenir effectivement le personnage médiatique central de la vie politique et télévisuelle de la décennie. Effectivement, son langage est encore assez posé. Les dérapages suivront très peu de temps après, 84, 85. C'est un tournant politique, 83. Ouais. 25 ans plus tard, on peut dire que le paysage électoral actuel, et en particulier Sarkozy, est véritablement un précipité chimique de 25 ans de montée du FN dans l'esprit français.
Serge Alimi, là-dessus? Le jeu de la gauche avec
effectivement,
le FN.
Effectivement, le jeu de la gauche, je crois que c'est une formulation même de Pierre Bérégovoy ou de François Mitterrand, je ne sais plus, qui expliquait qu'il fallait en quelque sorte doper l'extrême droite pour obliger la droite à faire alliance avec elle et la rendre ainsi inéligible. Et pendant bien des années, on aura l'impression que François Mitterrand fera du combat contre l'extrême droite en quelque sorte sa marque de fabrique qui permettra de justifier qu'il est resté de gauche. tout en assistant l'extrême droite afin de poser des tas de problèmes à ses adversaires Chirac, Giscard d'Estaing et Barre.
Il y a peut-être des traits qu'on ne tire pas assez dans les analyses que vous faites et les commentaires que vous faites sur ces années 80 et sur les archives qu'on écoute et qu'on propose. C'est que celui qui rentre dans cette émission à certains moments doit avoir l'impression qu'on est en train de parler de ce qui se passe aujourd'hui.
Oui, c'est toujours même. C'est-à-dire qu'effectivement, tout ce qui domine la vie sociale et politique française aujourd'hui est quelque part apparu dans la première moitié des années 80, qu'il s'agisse encore une fois de la politique de rigueur, de la montée de Le Pen ou de l'apparition du sida. Donc effectivement, il y a là une concentration chronologique de phénomènes qui nous paraissent désormais naturels, mais qui ne le sont pas et sont nés donc il y a 25 ans. Hein.
Un grand service public unifié et laïque de l'éducation nationale sera mis en place, sans spoliation ni monopole.
En annonçant le 15 mars 81 son intention de réunifier le système éducatif, le candidat à l'Élysée François Mitterrand se doutait-il qu'il ouvrait le dossier le plus sensible, sans doute le plus difficile du septennat. Un sondage par Image BVA montre que 71% des Français sont favorables à l'existence de l'enseignement privé.
13 octobre 1983, la guerre scolaire, François Cusset.
Oui, alors, c'est cette fameuse guerre scolaire avec la réforme voulue par Mitterrand dans ses 101 propositions et menée de main de maître par Savary. L'idée étant d'un service public unifié de l'éducation, ex-privé, dont l'éducation confessionnelle est publique, et qui va, on le sait, mobiliser les défenseurs de l'école dite privée, ou en tout cas de la liberté de choix pour l'école, jusqu'à la plus grande manifestation de toute la décennie, en nombre, qui est la manifestation de juin 80. À Paris, où 1 million de défenseurs de l'école, donc encore une fois dite libre, défilent. Au-delà de l'impact politique immédiat de cette affaire, moi, ce qui me paraît très intéressant, c'est que autour de cette histoire de l'école, on est en train de redéfinir, en plein tournant libéral et de la rigueur, le sens politique de la liberté. La liberté, désormais, c'est principalement la liberté de choix. C'est-à-dire que les défenseurs de l'école privée ne sont pas nécessairement d'horribles catholiques de droite réactionnaires. On trouve même un grand nombre d'électeurs de gauche qui disent ce qu'on veut, c'est la possibilité de choisir. Et je dirais que le pendant de cette grande manif de 84 pour l'école libre, c'est une manifestation, elle aussi importante, en décembre 84, à la fin de l'année, pour la défense de Énergie, où défilent des 100 000 adolescents ne voulant pas que leur radio soit brouillée par la haute autorité de l'audiovisuel parce qu'elle a un émetteur trop puissant. Quel est leur argument ? Liberté d'écoute. On a le droit d'écouter ce qu'on veut, on a le droit de choisir son école. En profondeur, ce qui s'opère dans le paysage politique français, c'est la définition de la liberté, non plus comme ce que des conditions sociales et économiques doivent favoriser, qui était une définition, je dirais, de gauche de la liberté, mais simplement en aval comme le choix, la possibilité de choisir les produits qu'on veut acheter au supermarché, le type d'éducation qu'on veut pour ses enfants ou le type de radio qu'on veut écouter.
Castoriadis appelait ça choisir entre deux bottes de foin.
Exactement.
À bout de souffle, c'est un film d'action et d'amour. Jeff Ludjack est un être sensuel et instinctif. Parce qu'il ne se refuse rien, il vole les plus belles voitures qu'il trouve sur son chemin. Jeff n'a pas de moralité, il possède par contre un grand cœur. Fou de Monica, il va vivre avec elle un amour passionné et le vivra jusqu'au bout au mépris des lois. Vous découvrirez À bout de souffle lors de l'avant-première Énergie, qui, pour la première fois, aura lieu en périphérie le jeudi 16 juin à 20h30 au cinéma Artel, centre commercial de Créteil. À bout de souffle, un film qui marche très fort aux États-Unis et c'est une avant-première
Energy,
bien sûr.
Bon, nous voici en 1983. Et qu'est-ce qui se passe le 26 décembre 1983 ? Ceci.
Si vous êtes séduisant et en bonne santé, impulsif mais pas trop, plus pragmatique que cérébral, plus intuitif que cartésien, si, comme Bernard Tapie, vous pilotez vous-même votre propre avion, si vous êtes encore plus casse-cou que timoré, plus cynique qu'idéaliste, bref, si vous avez un tempérament d'aventurier et si vous êtes capable de tout risquer pour tout gagner, alors vous êtes peut-être déjà, ou vous serez peut-être un jour, un vrai faiseur de films. Pourquoi vous ?
Bah parce que je pars d'une situation neuve et par conséquent ce qu'est crise pour certains est une situation connue de moi. Moi c'est ça, c'est cette formidable envie de sûrement c'est à la fois l'ambition et l'envie de réussir, mais je crois que le véritable moteur c'est une extraordinaire injustice que j'ai ressentie pratiquement tout au long de ma jeune carrière où j'avais le sentiment que le véritable dirigeant n'était pas forcément celui qui avait le plus de facultés pour l'être. Celui qui se mettrait à pas aimer l'argent à être chef d'entreprise, faut qu'il change de truc, parce que il est là pour ça, c'est son unité de mesure. C'est comme si Dru disait, moi le chronomètre, j'en ai rien à foutre. Ça n'a pas de sens. Donc il peut pas être désintéressé. Mais c'est pas vrai de toute la population. Moi je connais un tas de gens qui sont très respectables, et pour qui gagner deux fois plus, c'est pas du tout le truc absolu. Cela dit, moi qui ai connu les deux situations, j'ai connu celle avec et j'ai connu celle sans. Je peux vous dire que je suis mieux dans celle avec.
Voilà un document qui date de décembre 83. Tout le monde a reconnu Bernard Tapie. Et vous n'avez peut-être pas bien entendu le titre de cette émission. C'était « Les faiseurs de fric ». Et c'était réalisé par Roland Portiche et produit par Dominique Fricher, sur laquelle on reviendra. Vos commentaires.
Bah, là, ce genre d'émission, François effectivement, Cuchet. fait florès à cette époque-là. Il y en a beaucoup. Il y aura Vive la crise. Il y en aura pas mal. L'idée, c'est quand même assez artificiellement de produire à la télé, à la radio, un discours de propagande pour réconcilier les Français et l'argent et l'entreprise, pour les décomplexer. Mais au milieu de cet artifice-là, le bonhomme Tapie est effectivement une aubaine, parce que alors lui, il incarne l'authenticité de ce désir-là. Il est même, il y a quelque chose de quasiment sexuel, libidinal. Il aime l'argent. Il explique que c'est cet amour de l'argent qui peut faire réussir. Donc tout l'enjeu politique et idéologique est là, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de tenir un discours sur le libéralisme, mais de sexualiser, moi je trouve, ces questions-là, de montrer que le capitalisme fait jouir, que l'argent est désirable, donc et finalement le discours de la réalisation consistant à devenir quelqu'un, à se trouver une voie, est rendu sexy par cette rhétorique complètement nouvelle en France, qui est que l'argent qui suscitait que puritanisme et mépris chez les bons Français est désormais la chose la plus révolutionnaire qui soit, quoi. Je note aussi une chose dans l'extrait qu'on vient d'entendre qui est très étonnante. Le topo du début, c'est en gros, pour réussir, le corps c'est quand même plus important que la raison ou l'esprit. Et finalement, le discours de l'époque, c'est aussi le sport et sans doute une préparation bien meilleure à l'esprit d'entreprise que les études. Faites du sport, vous réussirez. Discours ultra démagogique et délirant. Et face à la montée du chômage, effectivement, et au problème de l'école à ce moment-là, c'est à replacer dans ce contexte-là, c'est assez étonnant, quoi.
Bernard Tapie, ouais, bravo, c'est ça. Bernard Tapie, un nom bien célèbre, un homme d'affaires connu par Mons et par Vaux, qui dirige des tas de sociétés, mais avec une pêche et une forme incroyable.
Alors, comment faites-vous ?
D'abord, je suis sportif. Plein de trucs. Je suis sportif depuis que je suis grand comme ça.
Ouais.
Ça m'a peut-être d'ailleurs donné un état d'esprit qui diffère un peu de certains de mes confrères.
Mm-hmm.
L'état d'âme, le mental, l'intelligence, tout ça, on ne peut pas l'extraire de son corps. En fait, il est le reflet de l'état de santé de son corps. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on est triste quand on est malade. Mm-hmm. C'est vrai qu'on est, comme vous, gay quand on est en forme. Et donc, je crois qu'il est indispensable d'être physiquement bien en forme si on veut être mentalement bien disposé.
Un énorme bravo ! Il est champion ! Il est champion !
Serge Alimi.
Au nombre de ceux qui rient aux plaisanteries de Bernard Tapie, je pense que les auditeurs ont distingué le rire de Jean-Louis Borloo, qui était sur le plateau, qui participait aux émissions de Tapie. Et il faut aussi souligner que pour la gauche, qui fera de Bernard Tapie un ministre de la ville quelques années plus tard, l'image de cet entrepreneur d'extraction populaire était tout à fait idéal. Ça lui permettait de rompre un peu avec son identification, avec ce qu'on a appelé la gauche caviar. C'était le type qui était capable, en quelque sorte, d'en remontrer à un autre tribun, type Jean-Marie Le Pen.
Vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur.
Mais c'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que
non,
vous
mais
arrivez...
Soyez poli,
mais
monsieur.
Je peux pas être
vous êtes
poli
sorti des bas-fonds, on le sait,
oui,
vous soyez poli.
Oui.
Vous avez dû apprendre à parler.
La seule différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Parce que vous dites n'importe quoi.
Ah, il s'avérera, cela dit, il faut ajouter que Tapie s'avérera évidemment incontrôlable, puisqu'il a été entièrement déniché. Alors on raconte, c'est Jacques Pillon, je crois, à l'origine, qui l'a déniché pour l'Élysée, pour effectivement, dans le rôle de l'animateur médiatique de l'entreprise. Et il va évidemment aller bien au-delà de ce qu'on lui demandait, devenir le personnage gênant, celui que la bonne bourgeoisie énarco-HECienne trouve vraiment vulgaire et obscène, et dont la popularité ira croissant et empêchera qu'on puisse vraiment le mettre de côté.
Celui que je vais présenter maintenant, c'est un leader.
Oui.
Lui aussi, il avait un idéal et depuis quelques années, sa popularité, son talent, sa notoriété a largement dépassé le cadre du monde des industriels et des chefs d'entreprise. C'est devenu une star, il n'y a pas d'autre mot. Et il chante. Bernard Tapie.
Réussir sa vie, c'est croire en l'instant où tout est magie, où tu es géant. Réussir sa vie, c'est traverser un océan, sans savoir pourquoi ni pour qui, à l'aventure tout simplement. C'est d'être un président, ou bien n'importe qui, et de prendre le temps d'aider un ami. C'est de gagner en bourse, comme on jouait aux billes, et de finir sa course. Le soir en famille, réussir sa vie, c'est d'abord choisir, c'est d'avoir envie de tout devenir. Réussir sa vie, c'est prendre la main d'un enfant, le cœur d'une femme qui te sourit à l'aventure infiniment. Réussis ta vie.
Serge Halimi.
Tapie, ça durera quand même un certain temps, parce qu'il faut rappeler qu'aux élections européennes de 1994, il obtiendra 12% des voix, un score à peu près comparable à celui de la liste conduite par Michel Rocard pour le Parti Socialiste.
Alors la même année, la même productrice, Dominique Frischer, le 2 juin 1983, est présente dans une émission sur Antenne 2 qui s'intitule « L'argent, le péché des Français ». Là, c'est très clair. Le titre de la collection de la série d'émissions, c'est « Aujourd'hui la vie ». Donc « Aujourd'hui la vie », l'argent, virgule, le péché des Français. Et là, sur le plateau, on rencontre Dominique Frischer, qui est sociopsychologue.
Bonjour à tous. Je ne sais pas combien vous gagnez, mais si je vous le demandais, il y a peu de chances que vous ne me le disiez. Nous avons avec nous sur ce plateau aujourd'hui Dominique Frischer, qui vient de publier chez Belfond Les Faiseurs d'Argent. Vous, quel jugement vous portez sur ce comportement un petit peu particulier des Français?
Mais je crois que c'est quelque chose d'historique. Il y a le plan psychanalytique, il y a aussi un plan socio-historique. Je veux dire qu'en France, il y a eu un moment où l'argent était donné. C'était l'argent des nobles et on ne parlait pas d'argent. Et quand il y a eu la révolution et le renversement des systèmes et des classes au pouvoir, les bourgeois qui ont commencé à faire de l'argent ont été traités de parvenus. Et finalement, on est resté au XXe siècle finissant avec le même code de définition sociale. Et moi, dans ce livre, j'ai voulu casser quelque chose qui était justement ce rapport à la culpabilité à l'égard de l'argent. C'est-à-dire que je suis partie du principe que les gens qui faisaient de l'argent avaient nécessairement un talent. Que ce talent, il était la résultante d'un certain nombre de qualités, qu'il fallait mettre ces qualités en évidence, et que c'était donc prendre le mot parvenu dans un tout autre sens et dans un tout autre contexte, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont partis de rien, qui ont eu une idée, qui ont fait des efforts et qui sont parvenus à réussir et à couvrir leurs objectifs. Il faut prendre des risques, et ça, c'est fondamental.
Voilà, alors investissez-vous, accrochez-vous, bagarrez-vous, et puis, si possible, gagnez de l'argent. En tout cas, bon après-midi à tous, et à bientôt pour une autre émission d'Aujourd'hui la vie. Au revoir.
Survivez.
Une interprétation du mot parvenu. François Cusset, est-ce qu'il n'y a pas là l'idée de rattraper notre fameux retard avec les États-Unis?
Oui, mais c'est même pas de rattraper un retard. Là, je pense que les termes employés par cette psychosociologue et par l'intervieweur prouvent que le discours sur l'argent des années 80 est peut-être le décalque exact du discours sur la sexualité des années 70. C'est-à-dire qu'en fait, on est coincé, on est inhibé, on n'est pas totalement réalisé. C'était le cas dans la sexualité à l'ancienne, à la papa, qu'il fallait absolument libérer, avec toute cette mythologie de la libération. Et là, c'est pareil avec l'argent, puisque finalement, c'est le discours du péché, de la lourdeur, de la vieillerie et de la transgression nécessaire. Il faut donc transgresser ce tabou-là. Moi, je trouve que ce discours-là, là aussi, sexualise la question, sexualise l'argent et appelle à s'en libérer. Difficile de répondre autre chose à cette psychosociologue que oui, aimons l'argent, sinon on est vraiment décoincés.
Et ça baigne dans la psycho, quand même. Les années 80, c'est les années psy.
Alors, il se trouve en plus que le fait d'interviewer
une psychosociologue... Tout le temps la psychologie,
ouais, la psy... c'est moi ce que j'appelle l'année des psy... Effectivement, la décennie des psychocrates, mais ils sont toujours là aujourd'hui. Le paradigme psychologique ou psychologisant explique désormais tout. Nos rapports à l'argent, nos rapports à l'entreprise, les enjeux politiques, les enjeux géostratégiques, l'histoire du monde. Tout est psychologisant. C'est quand même les années de Psycho, l'émission pionnière de Pascal Brunet. Alors effectivement, le psychologue est l'expert le plus écouté, surtout le psychosociologue ou le psychologue d'entreprise, puisque celui-là connaît l'âme de l'entreprise, c'est quand même important.